Raphaël, le cirque se poursuit aux États-Unis, je peux dire ça comme ça. Écoute, il y a aujourd'hui, il y a tellement d'actualités autour de Donald Trump. Un seul de ces événements-là aurait normalement tenu, disons, le haut du pavé dans l'actualité politique pendant une semaine. Écoute, son ministre de la Justice, son procureur général a dit, écoutez, il faut que le président arrête de tweeter à propos du département de la Justice parce qu'il rend... Il rend ma job impossible. Son ancien chef de cabinet, monsieur du nom de John Kelly, qui a dit que le soldat qui était à la Maison-Blanche, qui l'a dénoncé pour avoir tenu des propos épouvantables avec le président ukrainien, bien, il a bien fait de faire ça. Il a dit, comme soldat, il a fait ce qu'on lui enseigne de faire depuis qu'il a commencé à être soldat. Et là, évidemment, ben, Trump est devenu fou. Écoute, qu'est-ce qui va l'arrêter, tu penses?
C'est une bonne question, une semaine après son acquittement. Tu sais, ce qui est quand même assez...
On dirait que son acquittement, loin de lui rappeler qu'il devrait peut-être se calmer le pompon, son acquittement l'a galvanisé.
Est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'exactement a été placé l'appel original entre Trump et Zelensky, le président ukrainien?
Quelque part en juillet dernier.
OK. Et sais-tu qu'est-ce qui s'était passé la veille de ça? Le témoignage de Bob Mueller au Congrès, qui avait essentiellement été une espèce de ballon vide, là, ça n'avait rien donné. Et qu'est-ce que ça avait fait à Trump? Ça l'avait, comme tu dis, galvanisé. Le lendemain, il appelait le président ukrainien et ça déclenchait évidemment tout ce qu'on a eu depuis ce temps-là. Là, il se fait acquitter la semaine dernière et très loin d'avoir eu, entre guillemets, sa leçon, comme certains sénateurs républicains avaient annoncé, avaient prédit publiquement qu'il allait faire, c'est complètement le contraire qu'on voit. Donc, prenons les dossiers un après l'autre, si tu veux, là, en commençant par celui de son procureur général.
Attends une seconde.
Oui.
J'ai oublié un truc.
Vas-y.
Trump a accusé un des jurés dans le jury qui a trouvé son ami Roger Stone coupable. Il l'a accusé d'être biaisé.
Oui.
Écoute, le président des États-Unis qui accuse un juré, dans une cause criminelle d'être biaisé.
Et comme tu l'as
juste
dit tantôt...
Juste ça, il y a plein de présidents américains qui auraient dû démissionner dans le passé pour avoir dit ça.
Et pourtant, c'est un dossier parmi plusieurs. C'est un fait parmi plusieurs. Aujourd'hui même, juste la journée d'aujourd'hui, c'est une chose parmi plusieurs. Donc, prenons toute l'histoire de Roger Stone. On s'en est parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a peut-être une mise à jour qui est nécessaire. Donc, on le rappelle, pour la petite histoire, Roger Stone, ami de très longue date de Donald Trump, conseiller de très longue date de la campagne de Donald Trump, qui est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation. Criminel. Le département de la justice modifie la recommandation qui avait été faite initialement par les procureurs qui avaient enquêté sur M. Stone.
Et, excuse-moi, encore un peu de contexte.
Vas-y.
Les procureurs au dossier, devant la pression politique, ont décidé de démissionner.
C'est ça.
Et ils ne font aucune recommandation maintenant au juge.
C'est ça. Donc, il y avait une équipe de 4 procureurs. Les quatre ont carrément démissionné par protestation, si on veut, parce que leurs supérieurs, les chefs de file du département de la justice, ont décidé de renverser cette recommandation-là en disant, bien, finalement, elle était un petit peu excessive. Et qui avait dit qu'elle était peut-être un petit peu excessive? Le président lui-même.
Ça, c'est l'équivalent, là. C'est l'équivalent de si, je sais pas moi, Philippe Couillard avait dit, hey, Nathalie Normando, là, c'est épouvantable ce qu'elle vit. Moi, je trouve qu'elle devrait pas être accusée. On est dans les mêmes eaux d'intrusion du politique dans une mare qui devrait jamais... à être touché par le politique, c'est-à-dire le judiciaire.
C'est pire que ça, je te dirais, parce que dans l'exemple que tu donnes, il y a seulement une déclaration qui est faite. Il n'y a pas de changement au niveau de ce qui se passe devant les tribunaux. Or, là, non seulement il y a eu la sortie du président, mais ça semble peut-être avoir eu un impact.
C'est comme si un premier ministre changeait le directeur ou la directrice des poursuites pénales et criminelles pour que un de ses amis qui est accusé soit pas, disons, accusé aussi lourdement.
Et là, dans ce cas-ci, où ça met quelqu'un dans l'embarras de façon royale, c'est que le procureur général, qui est, tu le disais tantôt, là, l'équivalent du ministre de la Justice, autrement dit, c'est le numéro un du département de la Justice, il est dans l'eau chaude parce que d'un côté, il est censé être apolitique, il est censé être quelqu'un qui va administrer la justice de façon impartiale. En même temps, c'est un membre du cabinet. Le procureur général est nommé par le président. Il sert strictement à la discrétion, au plaisir, selon le gré du président. Et il est nommé aussi, il faut le reconnaître, sur une base politique. Donc, c'est pas évident pour à peu près n'importe quel procureur général d'atteindre cette espèce d'équilibre-là entre les deux. Dans le cas de William Barr, le procureur général, il l'a dit lui-même, c'est rendu carrément impossible. Parce que peu importe ce que le département de la justice fait, et surtout lorsque le département se comporte de cette façon-ci, c'est difficile.
Mais Raphaël, il a très bien vu, M. Barr, comment son prédécesseur, Jeff Sessions, a été traité par le président. En acceptant la job, là, tu acceptes la job avec Donald Trump, tu sais que moralement, tu vas devoir faire des compromis qui vont peut-être te faire un petit peu rougir quand tu te regardes devant le miroir.
Qu'est-ce que Donald Trump avait reproché ad nauseam à Jeff Sessions, son premier procureur général?
D'avoir nommé un procureur spécial pour enquêter sur toutes les histoires de la Russie.
Et surtout de ne pas s'être, ou plutôt de s'être récusé de cette fameuse enquête-là, toute la question russe, l'enquête de Mueller. Bon, Sessions, le premier procureur général, s'était récusé. Avait dit publiquement, je ne vais pas toucher à ça. Je ne suis pas objectif, je ne vais pas toucher à ça. Et pendant plus d'un an, tout le long du mandat de M. Sessions, Trump l'a carrément humilié sur la place publique. Et qu'est-ce qu'il lui reprochait? De ne pas l'avoir protégé. Donc, c'est ça la vision de Donald Trump vis-à-vis ce que le procureur général, vis-à-vis ce que, entre guillemets, le ministre de la Justice devrait faire, c'est-à-dire protéger le président. C'est pas ça le mandat constitutionnel du procureur général, c'est d'administrer la justice. Donc là, on est dans une situation qui est pour le moins délicate. Donc, on a demandé à M. Barr, est-ce que les tweets du président sont problématiques? Il a dit oui. Et encore une fois, il a dit que c'était rendu impossible pour lui de faire son travail.
Mais moi, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, Raphaël, j'ai l'impression que Trump est en train de défier les démocrates de l'inculper encore.
Bien, c'est drôle que tu dises ça.
Il joue à chicken présentement.
C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a une sénatrice démocrate qui est sortie hier en disant que si ça continue comme ça, on devrait lancer un processus d'impeachment contre qui? Contre William Barr, contre le procureur général. Donc, où est-ce que ça va? Jusqu'où ça va aller, cette escalade-là? Écoute, la question se pose. Je t'ajoute à tout cela ceci, parce que c'est pas comme ça, on manquait de stock. Mais on en a encore un petit peu plus aujourd'hui. Nouvelle aussi de l'après-midi. Le mur, le fameux mur à la frontière mexicaine.
Qui allait être payé par les Mexicains.
C'est ce que j'allais te demander. Qui allait payer pour? Le Mexique.
Ben oui.
Et après, une fois que le Mexique, évidemment, a dit non, qui allait payer pour? Le Congrès. Sauf que le Congrès non plus ne voulait pas payer. Et donc, qu'est-ce que Donald Trump a fait l'an dernier en 2019? Il a redirigé un peu plus de 3 milliards de dollars qui avaient été octroyés par le Congrès à d'autres fins, à des fins de défense, au département de la défense, au Pentagone, et a dit, je vais utiliser cet argent-là sur une base, en guillemets, d'urgence nationale. Moi, je décrète qu'il y a une urgence nationale à la frontière mexicaine, donc j'utilise 3 milliards de dollars, un peu plus de 3 milliards, pour construire le mur. Évidemment, il y a poursuite tout de suite devant les tribunaux fédéraux. Un juge de première instance qui émet une injonction, l'administration Trump va en appel, l'injonction est levée en appel. Tant et aussi longtemps que ça n'a pas été, statué de façon définitive, est-ce que c'est constitutionnel ou non de faire ça. Et là, pendant que cette première vague d'autofinancement-là là, est contestée devant les tribunaux, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'il y a un autre 3,6 milliards environ qui va être redirigé par le président pour construire encore plus de murs, de millages à la frontière mexicano-américaine. À peu près 2 milliards qui viendraient du budget de la base, du département de la Défense. Un autre 1,5 milliard environ qui viendrait d'un programme qui finance les opérations militaires à l'étranger. Donc, au niveau de tester les limites du pouvoir présidentiel, on est vraiment dedans aujourd'hui.
Tu l'as dit, 3,8 milliards, mais de cet argent-là, on devait acheter aussi du matériel militaire qui ne sera pas acheté ou va être acheté plus tard.
C'est ça.
Pour un mur qui, généralement, ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. On revient avec Luc Ferrandez.